Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h10, on est de retour sur RMC pour notre plus grand plaisir. Merci infiniment de votre fidélité. On est là le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez manqué la première heure, n'hésitez pas, les copains, à aller nous podcaster. Toujours avec Marion Bartoli, c'est son anniversaire. Bon anniversaire une nouvelle fois, Marion. Un petit cadeau tout à l'heure. Gros cadeau même. Oui, c'était mieux avant, signé Christophe Cessieux sur ton sacre à Wimbledon. Toujours avec Christophe Cessieux. Donc Marion Bartoli, Marc Madiot et Simon Dutin. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour du cas épineux Red Bull Verstappen. Et si Verstappen se voyait retirer son titre de champion du monde,
oui,
on parle de...
Tout.
Oui, ça, ça je me doute bien avec toi Marion. En tout cas, on se posera la question et on vous explique tout ça évidemment. 10h30, le Danemark change ses maillots pour protester contre la tenue de la Coupe du Monde au Qatar, avec notamment un maillot noir en signe de deuil. Est-ce une mesure symbolique ou démagogique? Et évidemment, nous reviendrons sur ces événements en France où on nous annonce un boycott de plusieurs grandes villes françaises, boycott des écrans géants durant la Coupe du Monde au Qatar. Et puis 11h, le bras de fer des GG autour des ultimatums posés à un entraîneur. Évidemment, nous faisons référence à Peter Boss à Lyon. Il y aura une team choquée, une team pas choquée. Ce sera un 2 contre 2, ce sera à partir de 11h. Un direct en cours actuellement, enfin en cours. On espérait qu'il soit en cours. C'est de la MotoGP, le Grand Prix de Thaïlande. Vous l'entendez avec Paul Lafitte sous la pluie en Thaïlande. Salut Paul.
Salut JC, salut les GG, salut à toutes et à tous.
Le Grand Prix qui va prendre un peu de retard.
Oui, il tombe des trombes d'eau, JC, ici à Burinan, en Thaïlande. La course de Moto2 a été interrompue, n'a pas pu aller à son terme, alors que la course de Moto3 s'était disputée sur des conditions impeccables, sur du sec. Et là, eh bien, tous les pilotes de MotoGP sont dans leur box, attendent des informations de la direction de course. C'est un circuit impraticable. Ce sont les mots de Paolo Ciabatti, le directeur du team Ducati officiel. On a pu voir Fabio Quartararo, Johann Zarco attendre sagement, assis dans leur box. Pour l'instant, il n'y a pas d'horaire fixé. On rappellera que la grille de départ a été remportée hier en qualification par Marco Bezzecchi. La troisième position pour Pecco Bagnaia, la quatrième position pour Fabio Quartararo et la cinquième pour Johann Zarco. Et dans ces conditions de piste mouillée, trois pilotes devraient normalement tirer leur épingle du jeu. On pense à Johann Zarco, toujours à la recherche de sa première victoire en MotoGP, de Jack Miller, victorieux à Motegi la semaine dernière, ou encore évidemment de Marc Marquez, auteur d'une séance de qualification K1K en huitième position, mais sur le mouillé, ces trois pilotes devraient normalement faire la différence. On en saura un petit peu plus, j'y sais, dans un petit peu moins d'un quart d'heure sur l'horaire de course de cette 17e manche du championnat du monde de MotoGP.
Merci beaucoup Paul, évidemment tu nous tiens au courant, c'est un Grand Prix très important pour Fabio Quartararo et vous allez le suivre en direct sur RMC à tout à l'heure. Paul, Jean Grenier a dit un jour, il vaut mieux changer de classe qu'être déclassé.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Et Verstappen va pouvoir triompher. La sixième victoire de la saison pour lui. Max Verstappen, neuvième victoire. Douzième victoire en carrière pour le pilote hollandais.
Avouez que c'est étonnant et troublant, non?
Quasiment une seconde d'avance sur Lewis Hamilton.
Si notre fils, il a triché, il a voulu bien faire.
C'est ça, faut vous mettre à sa place.
Max Verstappen va devenir le 34e champion du monde de Formule 1 de l'histoire.
Il a triché. Bon, ben il leur fera plus, hein, tu leur feras plus.
C'est la victoire de Max Verstappen qui devient donc champion du monde. Quelle folie!
Mon fils, il a peut-être triché. Mais c'est pas une raison pour vous foutre de sa gueule. On va faire classer.
Merci à Maxime Abolin pour cette production.
J'adore cette prône.
Ce serait une histoire incroyable, un retournement de situation spectaculaire. Et si Max Verstappen se voyait retirer son titre de champion du monde 2021? Cette semaine, deux journaux révèlent que Red Bull est suspecté d'avoir dépassé de manière significative le plafond budgétaire la saison dernière. En substance, plus de budget égale une voiture plus rapide. Dans trois jours, la FIA, la Fédération Internationale, doit dévoiler son rapport sur les dépenses engagées par chaque équipe. Réunie ce week-end à Singapour, la tension est montée d'un cran. Les autres écuries réclament une sanction exemplaire. Mercedes, c'est du lourd, du très lourd. Ferrari, c'est vital que le règlement soit appliqué avec la sévérité maximum. Williams, c'est plus grave que de tricher sur la voiture en piste. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Si c'est avéré, si c'est le cas, la FIA doit-elle destituer Verstappen ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Marion Bartoli ?
Oui, mais ils le feront jamais.
Simon Dutin ?
Non.
Marc Madio ? Avec le micro ? Vas-y, avec le micro. Oui ou non ?
Non, j'ai répondu non.
Oui, mais on l'a pas entendu.
Ah, pardon. J'étais ouvert.
Le micro était ouvert, évidemment. Un petit souci, ne vous inquiétez pas. Marc débute dans ce métier. Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, spécialiste Formule 1, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour JC, bonjour messieurs. Alors, c'est bonjour vrai qu'il Marion. Il est et bon anniversaire Marion.
Merci beaucoup.
C'est plus bonjour, c'est bonne nuit Jean-Luc. Hein.
Il y a un peu Il y a un peu de décalage horaire, c'est vrai. Alors mon cher Jean-Luc, il est souvent en question de dépassement en Formule 1, mais cette fois on parle de dépassement budgétaire.
Excellent.
Alors, on va essayer de résumer parce que c'est une affaire qui est évidemment sordide, comme parfois la Formule 1 nous en réserve. Alors, on se régale. Il faut savoir donc dans l'ordre que, effectivement, dans les règlements, lorsqu'ils ont évolué, on a mis en place ce qu'on appelle un cost cap, on va dire un budget limité en tout cas. Et la première année où ça s'exerçait, c'était la saison dernière en 2021. Ce budget est limité à environ 145 millions de dollars par an, mais je précise tout de suite qu'on exclut de ces 145 millions de dollars le salaire des pilotes. Bah oui, quand on commence à en donner environ 70 par exemple à Lewis Hamilton ou 35 par exemple à Max Verstappen, on peut pas l'inclure dans les 145. On exclut également les trois personnes les mieux payées de l'équipe, lire par exemple Christian Horner, Toto Wolff ou Mattia Binotto, juste pour prendre un exemple. Donc on exclut également tout ce qui est communication, c'est-à-dire tout ce qui est les motorhomes somptueux qui coûtent des dizaines de millions de dollars, etc. Bref, donc il reste quelque chose qui est consacré effectivement à la technique, pour le faire un petit peu plus simple, aux recherches aérodynamique notamment, etc. Alors, il faut rentrer dans cette enveloppe en sachant qu'évidemment, il revient aux écuries de communiquer à la FIA, ce qui est le cas donc, les preuves qu'ils n'ont pas dépassé ces 145 millions de dollars. On imagine bien, pour être clair aussi, que les méthodes comptables, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, c'est de la finance, ne sont pas les mêmes partout, et on imagine bien que dans certaines écuries et dans certaines usines, on fait travailler des centaines, voire des milliers d'ingénieurs qui n'apparaissent évidemment pas au niveau de l'écurie. Lire par exemple les grandes marques automobiles, je vous laisse mettre des noms. Ces gens-là font travailler donc des gens, et à l'heure d'ingénieurs, vous voyez ce que ça peut coûter, ça n'intervient pas dans le budget. Bref, on en arrive effectivement à ces fameux 145 millions, et pour le moment, comme tu l'as souligné JC en ouverture, il s'agit d'une indiscrétion, puisque évidemment les chiffres officiels entre guillemets n'ont pas été communiqués. Il s'agirait de deux équipes, alors on va les nommer, c'est bien sûr Red Bull qui aurait dépassé, on parle de 5 à 7 millions sur les 145. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Ce sont les bruits qui courent. Et on parle d'Aston Martin. Et ce serait même beaucoup plus grave pour Aston Martin, qui aurait de beaucoup dépassé ces fameux 145 millions. Vu le résultat sportif sur le terrain, on ne peut pas dire que ça a été très brillant. Mais bon, alors, il s'agit maintenant d'appliquer des sanctions. Si on se réfère au propre règlement de la FIA, il n'y a pas de sanctions précisées. Alors, pour vous mettre à l'aise aussi, je ne crois pas du tout à un déclassement, parce que ce serait énorme. Et en l'occurrence, on peut oser dire disproportionné par rapport évidemment à la faute commise. Qu'on les sanctionne financièrement, pourquoi pas, qu'on enlève des points constructeurs potentiellement et rétroactivement à l'écurie, ce serait déjà très lourd. Aller plus loin, non, parce que là aussi je vais être cru, et désolé Marion, mais on peut pas sanctionner le pilote pour ce que son écurie éventuellement aurait fait en termes comptables. Voilà
mon avis. Parce qu'il est pas au courant, mais c'est sûr, il est pas au courant qu'on lui met les pièces neuves à la place des pièces usagées, il sait pas. Michel Le Corre, il est tellement innocent, tu sais. Lui, juste, il conduit la voiture, c'est tout, le reste, il sait pas du tout, il sait rien.
En tout cas, merci Jean-Luc, et tu restes avec nous pour ce débat. La FIA doit-elle destituer Verstappen si c'est avéré ? Avant d'entendre Marion qui est dans le camp du oui, Christophe, pourquoi non ? Pourquoi ne pas le destituer ?
Bon, je trouve ça un peu ridicule. Là, on est dans de la comptabilité, comme le disait Jean-Luc, difficile de comptabiliser le nombre d'ingénieurs qui a travaillé. Tu penses que chez Mercedes, ils font travailler les mecs, les ingénieurs de la grandes firmes allemandes qui font pas, ils les font pas bosser en plus et que ça rentre pas dans le truc. Non, ils cherchent tous à selon leurs moyens, à mettre un peu plus de moyens et à mettre un peu plus de moyens humains pour construire ces bolides. Je pense que c'est ridicule et une nouvelle fois la Formule 1 va se découvrir un nouveau feuilleton autour de ça et qu'on va se détacher du sportif alors qu'en fait il faudrait que les mecs se disputent
sur la piste. Ça va faire un bel épisode Netflix.
Ouais, voilà.
Non mais se disputent sur la piste, mais si j'ai
Non mais c'est surtout que Mercedes, ils ont la haine de s'être fait fourrer à la fin de la saison dernière et cherchent par tous les moyens à récupérer leur truc et à se venger de Christian Horner qui depuis fanfaronne en disant regardez ce que j'ai fait moi à la grande marque allemande.
En faisant faire la pleureuse au niveau du directeur de course qui d'ailleurs s'est fait virer d'ailleurs, ça lui a coûté son poste et en trichant ouvertement pour obtenir la victoire. Donc excuse-moi, obtenir la victoire dans des conditions pareilles, il n'y a vraiment pas de quoi venir pavaner après.
Hein. Mais on a assisté à une saison extraordinaire la saison dernière. Je sais que t'as les boules parce que ton copain Lewis n'a pas réussi à garder son titre. Mais regarde où il en est aujourd'hui. Il a perdu son titre et aujourd'hui le meilleur pilote du monde s'appelle Max Verstappen. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est lui le meilleur et tu lui mets n'importe quelle bagnole, il va tous les taper aujourd'hui. Voilà.
J'ai lu quelques papiers pour m'intéresser évidemment à ce sujet.
Il finit premier même.
Complexe sur le plafond budgétaire et les pilotes, les experts disent que si on dépasse de 5 millions d'euros même son enveloppe budgétaire, ça peut faire gagner en piste 0,5 secondes. Quand on sait à quel point ce titre s'est joué d'à rien, 8 points d'avance au classement, certes, mais s'est joué à rien sur le dernier tour et tout ça, on peut se dire s'il y a eu
les dollars qui sont intervenus ce jour-là.
Ce ne sont pas les dollars qui sont intervenus, mais si la voiture est plus performante parce que t'as dépensé
c'est
plus d'argent.
C'est dans le mur.
Mais oui, mais si t'as dépensé plus d'argent pour avoir cette
décision de la direction de course fait que le titre est allé à Verstappen plutôt qu'à Hamilton, mais c'est pas les quelques dollars ou les quelques millions de dollars qui sont allés en plus.
Simon Dutin.
Ça fait quelques années que la FIA essaie de nous faire croire, de se faire croire qu'elle introduit des règles d'équité afin de relever un petit peu la compétitivité, qu'il n'y ait plus des monopoles de domination pendant quelques saisons. Dans les sports individuels, quand tu te bats pour un titre, t'es destitué quand t'as commis une faute personnelle. Là, effectivement, je trouve que ce serait injuste que Verstappen soit privé de son premier titre mondial parce que son écurie a triché. On parle d'un business dans lequel il y a un pognon incroyable. Donc effectivement, quand t'es Mercedes, c'est intéressant de noter que ceux que t'entends le plus, c'est quand même Ferrari, Mercedes et les mastodontes. Hein. C'est pas les petites écuries, c'est les gros. Effectivement, Mercedes n'a pas déclaré. Non mais excuse-moi Marion, ton salaire d'attaché de presse de Mercedes et d'Hamilton, il n'est pas déclaré à la FIA et pourtant, tu bosses bien pour eux.
Pourtant, j'en prends des sous. Hein.
Attendez, Marion a le droit d'avoir un avis sur cette fin de saison derrière.
Ce que je veux dire, c'est que c'est
sans être payé par Mercedes.
C'est des empêches. Je plaisante évidemment, c'est des empires tentaculaires et que t'as les moyens, si tu veux consacrer 5 millions de plus au développement sans que ça apparaisse dans les comptes, je suis certain que tu peux le faire. Donc moi j'arrive pas à croire que pour 5 millions Verstappen, vu en plus le scénario ahurissant de la saison dernière, ce soit ça qui ait fait gagner Red Bull et Verstappen. Et donc effectivement je pense que ce serait à la fois injuste pour le pilote et à la fois complètement ridicule de le destituer.
En revanche, peut-être que les millions de dollars mis sur la table par Red Bull lui permettent aujourd'hui, ils lui ont permis de mieux franchir le cap de la nouvelle réglementation et d'être aujourd'hui largement au-dessus des autres. Ça peut-être, mais sur l'année dernière,
Alors, sachez que c'est à la discrétion de la FIA d'infliger une pénalité, s'il y a pénalité évidemment. On parle de pénalité financière, d'amende, de retrait de points. Pourquoi pas pour le classement constructeur, Jean-Luc nous l'a dit, mais pourquoi pas aussi pour le pilote. Toi, tu n'y crois pas, mon cher Martin.
Ah non, je n'y crois pas une seconde. Je pense que la FIA ne se fera pas harakiri. Parce que imaginons, la FIA décide de destituer Max Verstappen du titre mondial, mais c'est la pyramide de la Fédération internationale qui s'écroule. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas été capables de gérer la situation, qu'ils n'ont pas été capables de gérer un championnat qui est le plus grand championnat automobile au monde. Et destituer celui qui incarne le mieux cette saison, Verstappen, c'est inimaginable. Et puis je vais me tourner vers Jean-Luc qui connaît bien l'histoire de la Formule 1. On va remonter quelques années en arrière. Il y avait eu une situation, alors certes ça n'était pas sur les finances, mais où on sait tous que l'écurie Brabham avec Nelson Piquet a joué sur les carburants pour faire gagner le titre à Piquet par rapport à
Renault. Piquet qui était rentré dans un mur aussi.
aussi.
Oui, mais ça, c'est le fils. C'est un peu après. Mais, et Renault, n'avait, qui était pourtant un des mastodontes de l'époque, n'avait pas été devant la justice pour faire avoir le titre à Prost. Donc, moi, je n'y crois pas une seconde. Alors, ils vont s'arranger autour d'une table en disant, voilà, il y a une amende rétroactive sur l'année prochaine qui va compenser ce que vous avez dépensé en surplus cette année. On va aller vers des situations d'arrangement, mais on ne destituera jamais Verstappen.
Ok, tu as interpellé Jean-Luc sur les précédents. C'est déjà arrivé ou pas, Jean-Luc ?
Alors, non, puisque ce règlement n'existait pas, mais Marc, qui adore la Formule 1 et qui la connaît très très bien, on a déjà eu le plaisir d'en discuter ensemble. Alors, exact. Il a raison, parce qu'effectivement, alors si on remonte aux triches en Formule 1, si on élargit le débat, parce qu'en l'occurrence, ce à quoi il fait référence, effectivement, c'est du carburant qui propulsait, en l'occurrence, le moteur BMW Turbo, et nous sommes en 1983, et c'est le moment, effectivement, où Nelson Piquet a décroché son deuxième titre de champion du monde avec l'équipe Brabham, qui à l'époque appartenait, comme par hasard, à Bernie Ecclestone. Donc, ce que veut souligner tout à fait Marc, c'est que Renault n'avait pas voulu être champion sur le tapis vert, c'est-à-dire qu'il aurait fallu prouver que le carburant utilisé, effectivement, par l'équipe concurrente à l'équipe Renault n'était pas conforme, et dans ce cas-là, on aurait déclassé Nelson Piquet, et comme il l'a souligné, Alain Prost aurait été champion du monde. On n'a pas voulu le faire. Moi, je vais rappeler deux cas, simplement, où, effectivement, rétroactivement, on a sanctionné un homme ou une écurie. Ben, le premier, il est sordide, hein. Je suis désolé de l'évoquer, surtout, comme on dit toujours, je prends des précautions oratoires compte tenu du fait qu'il peut pas se défendre, mais Michael Schumacher, lorsqu'il a donné un coup de roue extrêmement violent à Jacques Villeneuve, lors de la finale du championnat à RRS de la Frontera, dernier Grand Prix 97, eh bien, il avait été sanctionné tellement fort que là, mais tout de suite, hein, on a annulé tous ses points à lui de la saison 1997.
On pourrait ajouter avec Damonil l'année précédente.
Ça n'a jamais été ni prouvé ni avoué. Tu as parfaitement raison. Mais il n'y a pas eu de sanction. Je parle des fois où il y a eu sanction, entre guillemets. Donc là, on a sanctionné Schumacher en 97. On lui a enlevé tous ses points et on l'a exclu du championnat du monde. Lui, le pilote, parce que c'est lui qui a donné le coup de volant à Villeneuve pour essayer de le sortir et de l'empêcher d'être champion du monde alors qu'il était à l'extérieur. Et il y a un autre cas, alors qui est totalement rocambolesque, qui remonte à 2005, où il y avait une affaire sordide d'espionnage. Alors là, c'est du grand guignol, hein. C'est vraiment ridicule. Parce que, tenez-vous bien, un ingénieur de Ferrari aurait été donné les plans de la Formule 1 2006 et il y aurait eu des photocopies de fait, mais alors chez un commerçant en Grande-Bretagne. Bref, c'est à dormir, c'est à mourir de rire. Et du coup, les pieds nickelés, McLaren a pris, tenez-vous bien, 100 millions d'amendes, je dis bien 100 millions d'amendes, au profit de la FIA. Et McLaren a payé sans rien dire. C'est une affaire sordide dont on n'a jamais su véritablement les dessous, mais c'est du grand guignol. Voilà les trois cas, effectivement, qui peuvent revenir à l'esprit.
Pour revenir à notre affaire sur Red Bull et Max Verstappen, alors c'est sûr qu'on peut dire que Mercedes, mauvais perdant, a vraiment les boules après ce titre de Max Verstappen. Toto Wolff dit quand même, je ne sais pas combien de dizaines de millions nous avons dû restructurer et retrancher pour être, nous, sous le plafond. Et s'il y en a un qui a repoussé les limites, chaque million qui n'est pas dépensé est un énorme désavantage. Ça, est-ce qu'on peut l'entendre comme argument ?
Il me fait penser à Javier Tebas, tu sais, le patron de la Ligue espagnole, qui se plaint toujours du Paris Saint-Germain,
ou les Paris Saint-Germain triche,
ou les exactement pareil.
Est-ce que je peux dire quelque chose ?
Bien sûr, Marion.
Je ne suis toujours pas
exprimée,
je crois.
Vas-y, Marion.
Non, mais pour moi, effectivement, la Formule 1, de toute façon, c'est qu'une affaire de détails et de millimètres. Quand on écoute le discours de Frédéric Vasseur, qui est en charge d'Alfa Romeo, ils ont été déclassés sur une course pour 0,9 mm sur l'aileron avant. Mercedes a probablement perdu le titre également l'année dernière à Sao Paulo pour 1 mm de DRS. Donc, tout est une question de millimètres et de petits détails et de petites choses. Alors, bien sûr que je suis un petit peu utopique et que, bien évidemment, et je suis complètement d'accord avec Marc, ils vont pas se faire harakiri. Ils vont jamais le retirer du classement. Il va y avoir une petite sanction qui va certainement être plus sur le constructeur, d'ailleurs sur Red Bull, une sanction financière, mais ils vont jamais destituer Verstappen de son titre, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui me commence à me déranger très fortement, c'est qu'on a l'impression qu'ils s'arrangent systématiquement avec les règlements pour qu'il y ait du piment, effectivement, plus de choses à raconter finalement et que les gens se disent ah bah tiens c'est pas acquis d'avance, sauf que cette année pour Verstappen c'est totalement acquis d'avance, donc il y a eu aucune concurrence, le championnat maintenant ça intéresse plus personne. Après la course de Singapour, je pense qu'il y a vraiment un nombre de publics énorme qui va s'enlever pour ne plus regarder la Formule 1 sur la fin de la saison parce qu'il n'y a plus rien à regarder. Donc la seule chose qui nous intéresse finalement, c'est cette espèce de, effectivement, de feuilleton sur les plafonnements budgétaires, à savoir au 5 octobre lorsque le rapport va être rendu, qui a dépassé, qui n'a pas dépassé, qui a été le mauvais élève. Alors je pense qu'il y a mille et une façons de tricher sur les chiffres, et en faisant des montages financiers avec des bons financiers, tu peux arriver sur les plafonds. Sauf que tu as triché, que tu as caché, que tu as mis des lignes de dépenses ailleurs. Et effectivement, comme le disait, je crois que c'est toi, Simon, tu peux sur des écuries comme Mercedes ou Ferrari faire bosser des ingénieurs qui sont par ailleurs payés autrement et les faire bosser quand même sur ta Formule 1. Donc je pense que c'est en fait totalement utopique. Mais ce qui me dérange à la fin, c'est que comme ça joue sur pas grand-chose, bah, qu'il y ait systématiquement des tricheurs et des gens qui essayent de jouer sur les règlements pour arriver à obtenir leur fin, moi ça me dérange très, très fortement. Et que Verstappen l'ait fait de cette façon-là l'année dernière en gagnant ce Grand Prix, qui encore une fois a été un scandale absolu quand on le revoit. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le directeur de course de la FIA a été quand même viré. C'est qu'il y a une raison pour cela, c'est qu'il a pris plus que la mauvaise décision sous l'influence colossale de Christian Horner, et ça personne pourra le nier. Je trouve ça inadmissible. Donc le Red Bull continue malgré tout ça, alors qu'ils sont avantagés outrageusement, de vouloir grappiller et tricher. Moi, au bout d'un moment, ça finit par fortement m'énerver. Et
ça s'entend.
Voilà, je trouve que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ok, on suivra en tout cas attentivement ce dossier, toutes les informations sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous. 14h, il y a le Grand Prix de Singapour.
Départ de Grand Prix, 14h.
Avec Max Verstappen qui partira seulement 8e pour un problème de carburant. Là, au moins, on ne va pas les suspecter.
Il n'en avait pas assez.
Ouais, exactement.
Plus d'argent pour mettre de l'essence.
Allez, Lewis, tu vas la gagner, ta victoire.
Allez, Charles.
Je rappelle que Max Verstappen.
Il va l'avoir, sa victoire.
Max Verstappen,
on s'en fout de Lewis qui part à la retraite avec Roger.
Merci, quoi, c'est les copains.
Il va le gagner, son championnat l'année prochaine, t'es jaloux.
Oh, c'est son anniversaire.
Je reprends Max Verstappen qui pourrait devenir champion du monde dès ce soir. Il faudra un concours de circonstances vu la grille, mais c'est possible en tout cas.
Je
reste là. 10h31, on revient dans quelques instants. On va parler de ces mesures symboliques ou démagogiques par rapport à la Coupe du Monde au Qatar. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Marc Madio, Simon Dutin ce matin dans une dizaine de minutes. On s'en fout, on s'en fout pas, une information qui va vous intéresser. Vous le savez, c'est l'anniversaire de Marion Bartoli, donc j'ai décidé de lui construire une émission sur mesure. On a parlé de Max Verstappen il y a quelques instants. J'ai oublié Tony Yoka dans le lot. Mais sinon, j'ai du Benoît Paire qui s'est exilé au Portugal pour retrouver la confiance.
Happy birthday, Marion.
Voilà, est-ce que ça vous intéresse? On s'en fout pas, vous me direz tout ça évidemment dans une poignée de secondes. Vous le savez, notre direct ce matin, c'est le Grand Prix de MotoGP en Thaïlande qui a pris du retard à cause des conditions climatiques. Paul Lafitte, on en est où? Ça y est, on a un horaire de départ.
Il est allé se recoucher à mon avis.
Paul, t'es là? Paul une fois. Paul deux fois.
Paul deux fois.
Paul trois fois. Il est
parti à Koh Samui pour les massages, à mon avis, mon ami Paul.
Alors, vous savez quoi? Je vais vous donner. Ou non, je vais faire Paul Lafitte. Paul Lafitte, l'horaire de départ. Bah oui, Jean-Christophe Drouet, vous savez que là, il tombe beaucoup d'eau sur le Grand Prix de. Je le fais bien ou pas? Pas terrible. Hein.
Non, t'es pas terrible.
Sur le Grand Prix de Thaïlande.
J'étais là.
Ah, mais il était là.
Ça
y est, il a fini son massage.
L'heure,
il est là.
L'heure, mon cher Paul. L'heure, rapidement.
Oui. L'horaire dans 20 minutes à 10h55, deux informations, la pitlane, la voie des stands vient d'ouvrir, donc les pilotes vont effectuer deux tours de formation et ils vont ensuite discuter avec la direction de course pour savoir si la piste est praticable, mais normalement l'horaire ce sera 10h55 pour le départ de cette 17e manche JC du championnat du monde de MotoGP.
RMC Coupe du Monde de la FIFA 2022 J-49.
Boycotter ou ne pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar, certaines nations, même s'ils sont largement minoritaires, se sont posées la question, comme le Danemark qui a finalement décidé de protester de manière symbolique avec son équipementier, la marque de sport Hummel, en créant notamment un maillot noir, la couleur du deuil. Arnaud Souk de la rédaction RMC Sport est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Les maillots du Danemark seront différents de d'habitude.
Alors oui, un maillot rouge, un maillot blanc avec le logo de la fédération et celui de l'équipementier quasi invisible comme effacé. Nous ne souhaitons pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes, ainsi a expliqué la marque danoise au moment de dévoiler les maillots du Danemark pour la Coupe du Monde. Référence évidemment aux nombreux ouvriers qui ont laissé la vie sur les chantiers des stades de ce mondial qatari. Mais donc l'équipementier, tu l'as dit, Jean-Christophe, est allé encore plus loin dans son désir de marquer le coup, révélant un troisième maillot pour le Danemark au ton gris et noir. Noir en signe de deuil, précise le compte Twitter de la marque. Une initiative pas forcément du goût, on l'imagine, hein, du comité d'organisation. Nous contestons l'affirmation de cette marque selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous rejetons par tous les moyens la banalisation de notre véritable engagement à protéger la santé et la sécurité des 30 000 travailleurs qui ont construit les stades, et d'ajouter que la Coupe du Monde avait permis, je cite, de laisser un héritage social durable, des lois protégeant les droits des travailleurs et leur garantissant de meilleures conditions de vie. Alors officiellement, les organisateurs de la Coupe du Monde Qatar 2022 assurent à l'équipementier dans un courrier que seuls 3 ouvriers ont laissé la vie sur des chantiers dans les stades, bien loin des 6500 avancés par une enquête du quotidien britannique The Guardian.
Merci beaucoup Arnaud Souk, et j'ajoute qu'après Lille, Reims et Strasbourg, plusieurs autres grandes villes françaises comme Marseille et Bordeaux pourraient boycotter l'événement en n'installant pas d'écran géant ni de fan zone. C'est l'information RMC du matin. Vous pouvez aller retrouver ces informations sur rmcsport.fr, et évidemment notre débat peut aussi tourner sur ce sujet. Notre question, les GG, le maillot du Danemark tout d'abord, symbolique ou démagogique? Christophe Cessieux.
C'est un peu les deux, mais je dirais symbolique.
Marion Bartoli.
Démagogique. Démagogique.
Oui, ouais, c'est bon. Marc Madiot, je laisse un peu de suspense, c'est tout.
Totalement démago.
Totalement démago, très bien. Simon Dutin.
Comme je ne fais pas bien la différence entre symbolique et démagogique, je vais aller sur le démagogique qui me paraît être encore plus...
sordide.
Ouais, que le symbolique, mais...
À la sortie, c'est quand même Hummel qui fait sa pub.
Bah vas-y, tu commences, Marc. Tu as l'air énervé sur
la
le
situation,
sujet.
Comme par hasard, Hummel fait un nouveau maillot. On communique là-dessus. Moi, avant qu'ils ne fassent leur nouveau maillot, je ne savais même pas que Hummel était partenaire vestimentaire de l'équipe du Danemark. Donc, jackpot. Jackpot, sordide.
Ok, jackpot sordide, ouais. c'est ta vision. Tu parlais de, je ne comprends pas la différence entre symbolique et démagogique. En tout cas, le symbolique, c'est l'équipe du Danemark qui le dit. En effaçant un peu les logos, c'est comme si on n'était pas là. Alors et non, on veut pas s'associer. C'est notre symbole. Voilà. Donc, est-ce que c'est symbolique ou démagogique?
De marque, c'est effectivement symbolique pour toutes les nations, parce que bon, c'est le rayonnement d'une fédération. On a parlé effectivement du silence de la fédération française. La fédération anglaise est sortie du bois récemment en annonçant des mesures très concrète, hein, et au Qatar, là où je rejoins tout à fait Marc, c'est que dans cette histoire du Danemark, effectivement, on entend parler plus que de Hummel, qui est l'équipementier du Danemark. Et en gros, effectivement, changer les choses. Si tu veux changer les choses, c'est aller à contre-courant. Tu dis ah bah nous, ils porteront pas nos maillots au Qatar. Et là tu prends un vrai risque. Alors que là, effectivement, t'associes en fait ta marque à une pseudo posture, mais ça rejoint effectivement le débat qu'on avait.
Dans le commerce.
De toute façon, sur le débat, les écrans, là, tout à l'heure.
Les écrans géants dans les villes françaises.
Ça va simplement, c'est une tentative de changer la perception qu'aura le grand public de cette marque Hummel, qui, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas, ils fabriquent leur produits en Europe, j'imagine, qu'ils respectent le droit du travail, ça, il faudrait nous le garantir. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que ces mesures ridicules? Le Danemark, soit dit en passant, qui a une politique anti-immigration, une des pires en Europe, qui n'a de leçons à donner à personne en termes de droit d'asile et de respect des, tu vois, de l'humanité mondiale, universelle. Donc bon, on est dans le... Effectivement, il n'y a que les gouvernements, je pense.
Non, mais si on va dans ce sens-là, tous les pays et tous les gouvernements doivent balayer d'abord devant leur porte. Non, mais ça j'entends, mais en même temps, imagine le Danemark qui joue à la Coupe du Monde. Et là, je parle à ceux qui pensent que c'est démago. Le Danemark qui joue, le Danemark tout en noir, c'est un symbole
juste
fort.
Juste pour
quand
terminer,
même.
Pourquoi au Qatar et pas en Russie, en fait. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de pire au Qatar qu'il y a en Russie? Regarde les rapports d'Amnesty International, et là je te parle de bien avant le déclenchement de la guerre, de l'invasion en Ukraine, avant la Coupe du Monde 2018, la corruption avérée, l'interdiction des libertés de réunion, l'interdiction et la restriction de la liberté d'association, de la liberté d'expression, les opposants politiques, les journalistes assassinés, ça a dérangé personne d'aller jouer à la Coupe du Monde en Russie. Totalement. Peut-être parce que sait-on jamais, les touristes étaient un petit peu mieux accueillis, on avait le droit de se bourrer la la gueule. Et puis il y avait quelques hôtesses parfois dans certains hôtels. Enfin, je veux dire, un modèle qui plaisait peut-être un petit peu plus à notre monde, à notre regard occidental. Et là, le Qatar, effectivement, comme par hasard, là, ça indigne tout le monde.
Le côté démagogique a été discuté. Marion, j'arrive dans quelques instants. Tu penses aussi que c'est démago, symbolique quand même.
Alors oui,
pourquoi,
non, mais je suis partagé entre les deux, parce que tout ce que dit Simon et ce que disait Marc auparavant, j'en suis conscient. C'est vrai que c'est de la démagogie totale pour l'équipementier qui, grâce à ce maillot, va se faire connaître de manière positive dans le monde entier, va peut-être vendre des maillots en plus. Et puis c'est un coup de projecteur positif également pour le Danemark, qui apparaît, c'est vrai, aux yeux du monde entier comme le pourfendeur du mal, le défenseur de la veuve, de l'orphelin et des droits de l'homme. Donc ça, il y a le côté démago. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, dans notre monde, il faut des symboles et il faut se positionner. C'est ce que reproche d'ailleurs Amnesty International à la France et à la Fédération française, qui a fait le dos rond en attendant que ça tombe ailleurs que sur sa tête et qui a rien voulu faire. Là, au moins, le Danemark, voilà, nous, on a fait quelque chose. On existe. On va mettre ce beau maillot noir. Vous allez voir. Grâce à ça, nous allons pourfendre le Qatar.
Si tu veux faire quelque chose, c'est comme Mohamed Ali. Alors, tu refuses de t'engager pour la guerre au Vietnam. Voilà. Et t'as des sanctions après sur ta carrière. Oui. Vas-y, franchement et vas-y, franco. Bien, là, tu sais très bien que ça dérange pas du tout, toi, ta performance pour ton équipe et pour ton pays.
Voilà, tu n'y vas pas.
Bien sûr. Mais totalement. Mais exactement. Mais je suis complètement d'accord avec Marc et Simon. Je peux pas être plus d'accord avec eux. Moi, j'aimerais simplement rajouter quelques éléments qui me paraissent intéressants d'exprimer. La FIFA a annoncé les 5 affiches qui ont eu le plus de succès en vente de billets sur cette Coupe du Monde au Qatar. L'Australie et le Danemark est dedans, dans les 5 affiches qui ont eu les plus gros succès. Énormément de Danois ont acheté des billets pour faire le déplacement pour aller voir leur équipe. Ces Danois, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Bien sûr qu'ils vont acheter ces maillots, surtout s'ils sont à la vente. Donc c'est juste un coup de génie marketing de la part de leur équipementier. Et pour moi, vraiment, il y a aucun engagement dans ce qu'ils font, en fait. Si tu veux faire un réel engagement, tu fais comme Mohamed Ali. Mais là, tu prends aucun risque. C'est-à-dire, ton équipe va jouer, ton équipe va participer. Et tu fais juste, une espèce, oui, effectivement, totalement de coup marketing. Alors que si tu veux t'insurger, t'aurais pu totalement t'insurger, par rapport à la Russie. Il y avait bien d'autres sujets. On a l'impression que tout le monde se réveille à 2 mois à la compétition. Maintenant, on n'est même plus à 2 mois, on est, à même moins que ça. Alors qu'on savait très bien la situation. On la connaissait parfaitement, la situation. Ça fait énormément d'années que cette compétition est octroyée au Qatar. Pourquoi on se réveille tous que maintenant, je comprends pas cette espèce de levée de bouclier juste à 2 mois de la compétition. On va taper sur le Qatar. On n'a rien fait par rapport à la Russie et maintenant tout le monde s'insurge des conditions du Qatar. Je trouve ça totalement ridicule. Ces pauvres ouvriers décédés. Alors effectivement, les chiffres sont totalement divergents et c'est extrêmement difficile. On n'y est pas. On n'est pas sur place d'arriver à plus croire à un camp qu'un autre. Mais ça fait pas 6 mois ou 3 mois, paix à leur âme d'ailleurs, qui sont décédés. Et on a l'impression que c'est maintenant qu'on en parle pour qu'on n'en a pas parlé avant, en fait. C'est ça que je comprends pas.
Bon, donc,
je comprends pas cette espèce
articles.
De levée de bouclier juste maintenant. Non, mais juste maintenant. Il y a 3 millions de billets qui étaient avant, il y en a déjà 2,5 qui ont été vendus. Donc, si on veut tous boycotter la Coupe du Monde, il n'y a pas un billet d'acheter et personne n'y va. Ouais. Donc, il y a un engouement populaire, les gens veulent y aller. Et il y a une espèce de lobbyisme bien pensant qui effectivement, explique que les Qataris sont les grands méchants et que nous, on est parfaits. Mais on est loin d'être parfaits. Donc, arrêtons de vouloir donner des leçons à tout le monde.
Ok, mais c'est tout de même un peu gênant parce que l'équipe de France qui fait rien, on leur dit les mecs, vous faites rien. Et puis le Danemark, vous faites quelque chose. Ah, bah oui, mais c'est démagogique, c'est un peu difficile.
Mais ils font rien.
Il y en a qui font quelque chose. Quelque chose dans cette Coupe du Monde, ce sont les footballeurs iraniens qui, eux, ont pris fait et cause pour les femmes iraniennes qui se sont fait massacrer en Iran. Et je pense que la vraie symbolique autour de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y ait une solidarité envers les femmes iraniennes. Et ça, ce serait un vrai message lancé au monde et lancé aux dictatures. Et là, ce serait pas mal qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est vrai que se porter ce maillot noir, c'est pisser dans un violon.
Ok, les copains, coup de génie de la part de l'équipementier, je retiens votre argument. Alors, soit moi je suis totalement naïf, soit c'est vous qui voyez le mal partout. J'ai mon idée, mais quand même, ok, je veux bien vous croire. On parlait en tout cas de démagogie, de mesures symboliques. Je vous rappelle que Lille, Reims, Strasbourg, 3 villes françaises ont décidé de ne pas installer d'écran géant pour cette Coupe du Monde au Qatar. Ils boycottent l'événement. Sachez que Marseille et Bordeaux pourraient suivre toutes les informations sur rmcsport.fr. 10h47, on revient dans quelques instants avec, ça c'est juste pour Marion, juste pour son anniversaire, hein, une information Benoît Paire. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Marc Madiot, Simon Dutin. Ce matin, à partir de 11h, nous allons faire un bras de fer des GG. C'est de coutume, désormais, depuis le début de la saison. Le bras de fer des GG sur ce dossier des ultimatums posés à un entraîneur. On fait référence évidemment à Lyon, à Peter Boss. Il y aura une team choquée, une team pas choqué, ce sera un 2 contre 2 dans quelques instants. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG, le retour.
Allez, d'autres informations, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Benoît Paire qui s'est exilé au Portugal pour retrouver de la confiance. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Voilà. Allez, non, je m'en fous pas.
Ah, super. Je vous demande pas les autres, mais vous me direz si vous avez quelque chose à ajouter. Après avoir envisagé d'arrêter sa carrière, l'actuel numéro 165e à l'ATP semble avoir retrouvé le goût du tennis en dehors de la France, où la pression pèse moins sur ses épaules. Voici ce qu'il déclare. Jouer à domicile est un peu délicat pour moi en ce moment. Les gens attendent beaucoup de moi. J'étais numéro 18 mondial. Alors quand je reviens, ils s'attendent à ce que je gagne toujours. Mentalement, je n'étais pas prêt à jouer mon meilleur tennis. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux être dans un endroit plus calme au Portugal, profiter de mon tennis. Bon, après, Benoît Paire restera toujours Benoît Paire, évidemment. Vendredi, il a été éliminé du quart de finale du Challenger de Lisbonne. Il nous a offert une petite sortie à la Benoît Paire. Alors, pour tous les papas, les mamans, vous êtes dans la voiture, vous êtes avec les enfants, vous baissez juste 10 secondes la radio. Voilà, on éloigne les enfants pour passer ce petit son. Ça dure 3 secondes, vous allez voir, c'est du Benoît Paire. Et puis après, vous remettez le volume, évidemment, pour le débat. Vous êtes prêts? C'est bon? Il n'y a pas d'enfants qui écoutent? Ok? Benoît Paire.
La personne visée par une grosse pute de luxe.
Merci Benoît Paire. Marion, vas-y, on t'écoute.
Oh, il est taré.
Oui, ben voilà. Tu vois, tu m'as ôté les mots de la bouche. Question que je te dise. Non, mais en fait, Benoît, si tu veux, moi, je l'apprécie énormément en dehors du terrain. On a toujours bien rigolé. En plus, c'est un supporter de l'OM. On s'est toujours bien entendu. Mais après, quand il est sur le terrain, il y a des moments où je peux pas cautionner ses comportements. Lorsqu'il sort une phrase pareille, comment tu veux que je dise non, mais c'est très très bien, faut le faire. C'est juste pas possible. Mais en dehors, c'est quelqu'un de gentil, de charmant. Mais il a des démons qui ressortent lorsqu'il est sur le court. Et ça, je peux pas le cautionner. Donc, j'ai jamais attaqué la personne. Pour moi, c'est en dehors du terrain. J'ai aucun problème avec Benoît. Mais en revanche, sur ce qu'il vient de dire, et voilà, il l'a pas fait qu'une seule fois. C'est vraiment en répétition. Comment tu veux que je dise oui, c'est très bien. C'est pas possible. Mais en dehors, malgré tout ce que les journalistes peuvent penser, j'ai aucun problème avec Benoît.
Ok, mais en tout cas, lui dit que.
Un peu, parce que tu peux pas dire ça sur un con non plus.
Lui dit qu'en tout cas, ça lui fait du bien de s'exiler, qu'il a envie de retrouver son meilleur niveau, et pourquoi pas le top 30, le top 20, s'il voit qu'il peut pas revenir sur le circuit. Il arrêterait de jouer au tennis. Un petit mot en 5 secondes.
Il vient de perdre sur un Kazakh qui est 230e mondial, donc à mon avis, c'est top 20.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, il reprend le goût, en tout cas, Marc.
Il est où, là?
Il est à Lisbonne, là.
Ah, il est bien là-bas.
Ok.
Bah, il va aller voir Marseille, là, cette semaine.
Il peut éventuellement aller voir Marseille, mais un petit conseil d'amis qui reste là-bas, il fait meilleur. La météo est meilleure.
Ok, parfait. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le dossier Benoît Paire avec du fado, évidemment. Merci. Car c'est une. Émission produite et qui nous vient directement des États-Unis. Donc dès qu'on a quelque chose, évidemment, on sait sortir l'artillerie lourde. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le président de Nice. Ah, ça c'est pour mon Christophe, qui désamorce la polémique Fournier-Galtier. On s'en fout pas, Marc Madiot.
Ah, je m'en fous pas.
Ah, tu t'en fous pas, Simon.
Je m'en fous.
Marion.
Je m'en fous pas, j'aime bien les polémiques.
Ok. Christophe.
Je m'en fous pas, je vais écouter ça.
Ok, interrogé par Canal Plus sur les propos polémiques tenus dans l'after foot, on en parlait hier par Julien Fournier, l'ancien directeur sportif du gym. Celui qui fut son président, Jean-Pierre Rivère, a tenu à faire savoir qu'il n'avait pas compris sa sortie médiatique. On l'écoute au micro de Canal Plus.
Sincèrement, le sujet en question, il n'y a pour moi aucune matière à faire une polémique. J'ai eu Julien tout à l'heure, ça fait très très longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone. J'ai dit, Julien, franchement, je comprends pas trop ce que tu as pu dire et déclarer parce que il n'y a pas matière pour moi à en faire une déclaration de presse. Pour moi, il n'y a pas de sujet et ça, c'est une histoire qui va se dégonfler toute seule.
Ok, c'est un non-sujet pour Jean-Pierre Rivère. Je rappelle que Julien Fournier avait déclaré que s'il disait tout ce qu'il savait et la discorde qu'il a eue avec Christophe Galtier ne pourrait plus mettre les pieds dans un vestiaire en France ni en Europe. Exactement. Marc Madiot.
Je trouve que ça met en évidence les ambiances fort sympathiques qu'on doit rencontrer dans beaucoup de staff d'équipes de foot. Ça m'amuse.
Ok, ça t'amuse cette, cette polémique. Christophe.
Ouais, moi ça m'amuse pas trop, moi. Ça m'amuse pas trop ce qui s'est passé.
Non, mais c'est parce que c'est
Nice. Non, mais c'est pas tellement ça. Mais tu...
ça jette un
Je veux dire
son,
que, tu, que tu t'engueules avec un mec, que tu supportes plus un type, ok. Mais t'es pas obligé d'aller balancer, de faire des allusions comme ça au micro d'une, d'une radio nationale. Derrière, tu jettes l'opprobre sur Galtier. Et je pense que River a raison. Il a essayé de calmer le jeu.
Et Galtier, en pense quoi?
Galtier, il en pense quoi de ce qu'a dit Fournier? Il a répondu dans la semaine. Il dit ça m'étonne pas
de ce
vu le mec, connaissant le mec. Après, moi, je,
et voilà. Mais on tire à boulet rouge, c'est certain.
Non, mais parce que Galtier restait quand même mesuré, mais. Voilà, c'est ce genre de truc. Vaut mieux que ça reste sous le couvercle. C'est pas la peine que ça sorte, à mon avis, dans le grand public.
Oui, en tout cas, il fallait dire les choses. 10 secondes, Marion.
Ce qu'il a fait et dit. Non, mais tout dépend de ce qu'il a fait et dit. C'est toujours pareil. Après, il faut apporter des preuves. Mais s'il y a des déclarations ou des choses qu'il a réalisées qui sont totalement inadmissibles.
Ouais, mais dans une conversation privée. Alors, je sais pas ce qu'il s'est dit, Marion.
Bah, tout dépend,
mais quand t'as une conversation privée avec quelqu'un, que ça doit pas sortir, c'est du off ou c'est un truc comme ça, et que derrière, un mec fait une allusion en disant, voilà, ouais, si vous saviez ce qu'il a dit, tu vois, franchement, je trouve ça assez bas.
Moi, ok, le procédé, tu n'es pas fan. Ouais. Ok, très bien. Sachez les copains que ça va enfin partir pour la MotoGP avec Fabio Quartararo, notre champion en titre, évidemment Paul Lafitte. On en est où? Ça y est, la météo est revenue à peu près tranquille.
Oui, il faut le dire vite quand même, JC1, il ne pleut plus évidemment sur le circuit de Burinan, mais la piste est encore détrempée. La fin du tour de formation et les pilotes qui vont s'immobiliser sur la grille de départ, la pole position pour Marco Bezzecchi, la troisième place pour Pecco Bagnaia, la quatrième en qualification pour Fabio Quartararo, la cinquième pour Joan Zarco, le drapeau rouge. On rappellera que le pilote français a 18 points d'avance au classement du championnat du monde et qu'il reste 4 courses à disputer, 100 points donc à prendre d'ici à la fin de la saison, avec un avantage peut-être sur une piste mouillée pour Joan Zarco. Le départ, les feux qui sont au rouge et les pilotes qui vont s'élancer donc pour 26 tours ici à Burinan, et l'excellent départ de Marco Bezzecchi, l'auteur de la pole position, qui va peut-être virer en tête. C'est finalement Jorge Martin au coude à coude avec Marco Bezzecchi, eh bien, qui se rate un petit peu, et ça va peut-être profiter à Pecco Bagnaia, le deuxième de ce classement du championnat du monde. Marco Bezzecchi qui reprend la piste au bout de cette longue ligne droite. Il va donc virer en tête après deux virages devant Pecco Bagnaia. On regarde les Français qui ont pris un départ plus que prudent. Fabio Quartararo qui est en 9e position dans le paquet. Marc Marquez, auteur lui aussi d'un très très bon départ. On scoutera également Joan Zarco, lui aussi qui est bien positionné au 7e rang à l'issue donc de ce premier tour. J'y sais, les conditions sont quand même dantesques.
Hein. Ouais, exactement.
Beaucoup de pluie évidemment sur cette piste de Burinan. C'est un tracé très technique avec 12 virages. Il y en aura 7 à gauche et 5 à droite, avec une ligne droite longue de 1 km. On va boucler le premier tour avec donc la position de pointe pour Marco Bezzecchi devant Pecco Bagnaia. Jack Miller est en 3e position.
Oh là là, 17e Quartararo.
Les Français sont beaucoup plus loin. 17e position pour Fabio Quartararo. Il a 9e position pour Joan Zarco. Il l'avait dit, le pilote du team Yamaha. Il ne prendra pas de risque dans les premiers tours. Donc voilà le circuit de Burinan et ses guerriers qui sont donc sur la piste ici en Thaïlande.
On suit ce Grand Prix MotoGP. C'est très important pour cette fin de saison. À tout de suite sur RMC, le retour des grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.